Voilà, j'avais à cœur de parler dans le passage qui se trouve dans 2 Rois, chapitre 4, qui est toujours dans la continuité de ce qui a été dit ce matin, et là aussi c'est dirigé par le Seigneur, je crois, parce que ce passage m'a été donné hier soir. J'ai vraiment eu à cœur de parler là-dessus, et vous allez reconnaître certaines choses qui ont déjà été dites, ça raccourcit mon message. Et puis tant mieux pour vous, puisque l'heure tourne de toute façon. Voilà, il s'agit d'Élisée, la vie d'Élisée, cet homme de Dieu, cet homme qui a désiré avant tout recevoir l'Esprit de Dieu. N'est-ce pas? C'était frappant que Élie, son prédécesseur, lui ait donné l'occasion de choisir quelque chose. Et Élisée a dit, je veux avoir une double portion de l'Esprit qui était sur toi. C'était ça le désir de son cœur. Et il a été exaucé pleinement, il y avait des conditions pour cela, mais il a été exaucé pleinement, il a reçu l'Esprit de Dieu. Il a agi, c'est un homme qui agit avec l'Esprit de Dieu. C'est un homme qui a vu les choses de Dieu. Bon, quelquefois on dit, on ne voit pas les choses, on ne voit pas beaucoup de réponses aux prières, mais il nous manque, n'est-ce pas, l'Esprit de Dieu si on ne voit pas les réponses aux prières, parce que Dieu agit. Il n'a pas changé, il n'est pas différent, il ne s'est pas éloigné de ceux qui le cherchent. Et si nous ne le voyons pas toujours à l'œuvre, c'est parce qu'il nous manque ce désir de l'Esprit de Dieu, n'est-ce pas? Mais si nous aspirons à l'Esprit de Dieu, à la présence de l'Esprit de Dieu dans nos vies, eh bien nous verrons les choses que Dieu veut accomplir sur cette terre. Nous les verrons quotidiennement. Il s'agit donc dans ce chapitre 4 de plusieurs épisodes, mais je vais prendre celui qui concerne, à partir du verset 8, vous le lirez chez vous, la femme de Sunem, une femme de distinction qui avait remarqué en Élisée un homme de Dieu et elle a dit, on va l'accueillir, elle a dit à son mari, je souhaiterais qu'on l'accueille à la maison. Il y avait dans le cœur de cette femme le désir d'avoir près d'elle, près de son mari, celui qui représentait Dieu, c'est-à-dire celui en quelque sorte qui était Jésus-Christ à l'époque. Et cet homme, Élisée, a vu que cette femme n'avait pas d'enfant, n'est-ce pas? C'est son serviteur d'ailleurs, Géasi, qui lui a fait remarquer, parce qu'Élisée a dit, mais qu'est-ce que je peux faire? Elle est si gentille, ils sont si gentils ce couple avec moi, qu'est-ce que je peux faire pour eux? Est-ce que je peux parler au roi en leur faveur ou quelque chose comme ça? Et Géasi a vu très juste. Il n'a pas toujours vu très juste dans sa vie, mais là, il a vu juste. Il a vu que elle n'avait pas d'enfant et elle n'avait pas d'avenir, cette femme. Et donc, il a suggéré à Élisée que voilà, peut-être qu'ils auraient besoin d'un enfant pour assurer l'avenir, parce que le mari était âgé. Et ça veut dire que quand il mourait, eh bien, la femme n'avait pas de moyens de subsistance. Donc Élisée a écouté son serviteur, il a prié Dieu, et il a dit à la femme, voilà, dans un an, tu auras un fils. C'est quand même merveilleux, n'est-ce pas, ce qui se passait. Alors, c'est l'enfant a grandi, l'enfant est né, l'enfant a grandi, et un jour, il a eu une insolation, quelque chose, une congestion cérébrale, et il est mort. Et donc, cette femme est allée voir Élisée, le prophète. Elle voulait rien entendre. Elle n'a même pas dit à son mari qu'il est mort. Son mari avait vu qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Il a dit au serviteur, ramenez-le auprès de sa mère. Mais elle n'a rien dit à son mari. Elle est partie. Géasi l'a vu arriver. Il est allé à sa rencontre, n'est-ce pas, en disant, comment ça va? Comment ça va? Ton mari, ton fils, tout va bien. Elle voulait voir Élisée. Et je me demande si ce matin, nous avons cette même détermination que cette femme. Je veux voir Jésus. Bien sûr, elle ne connaissait pas Jésus parce que Jésus n'était pas encore là, mais Élisée, c'était le représentant de Dieu sur la terre. C'était le représentant de Dieu et elle le savait. C'était lui qui avait reçu l'Esprit de Dieu. Il pouvait dire, l'Esprit de Dieu repose sur moi, car il m'a oint. Comme Jésus a pu dire ça de lui plus tard. Et donc, Géasi ne savait pas, bien sûr, quoi faire dans cette histoire. Et Élisée lui a dit, ben, écoute, il y a quelque chose que Dieu nous a caché. Mais il a dit, Il a donné son bâton à Élie, à Géasi. Il a dit, va vers l'enfant et mets le bâton sur son visage. Et c'est le premier point que je voulais dire. C'est que, quelquefois, nous avons tendance à croire, c'est ce que Daniel a dit tout à l'heure, qu'il y a une technique. Ou que, parce que dans le passé, telle personne a été miraculeusement sauvée par un moyen quelconque ou guérie par un moyen quelconque, il faut reproduire cela. Et je pense qu'Élisée n'a pas pris conscience que l'enfant était mort. Je pense qu'il a simplement cru que cette intervention allait suffire de sa part parce qu'il était un homme de Dieu et que son bâton pouvait servir, n'est-ce pas, pour la guérison de cet enfant. Mais Géasi est allé vers cet enfant, il a mis le bâton sur le visage et il n'y a rien qui s'est produit. Et quelquefois, je trouve que c'est ça le signe, c'est ça qu'on voit dans l'Église. C'est que le bâton d'Élisée, c'est quelquefois l'enseignement qu'on donne. C'est les messages, c'est les exhortations, c'est les paroles à encourager en disant « voilà, ça, ça va guérir, ça va relever ceux qui sont abattus, ça va faire vivre ce qui ne vit pas de spirituel dans la vie des hommes et des femmes qui nous entendent. » Et on trouve que souvent on doit revenir avec le bâton en disant « ça n'a pas marché. » Ça n'a pas marché, ça n'a rien fait. Le souffle n'est pas venu. Les yeux ne se sont pas ouverts. Les poumons n'ont pas commencé à fonctionner. Il n'y a rien qui vit. Il n'y a aucun signe. C'est ce que Géasi a dû dire. Ça a dû faire un choc à Élisée. Peut-être la première fois qu'il avait vu un miracle qui lui était refusé. Mais c'est parce que je crois que dans le cœur de cette femme, ce n'était pas un bâton qu'elle voulait. Ce n'était pas une intervention comme ça, miraculeuse, spectaculaire. Ce qu'elle voulait, c'est que Élisée aille prier pour cet enfant. C'est que Élisée puisse donner le souffle qui était en lui, que Élisée puisse donner la vie, l'esprit de vie qui l'animait, que ce garçon puisse le recevoir. Et je crois que dans son cœur, elle était sûre que c'était lui qui pouvait faire quelque chose. Et ce matin, je voudrais savoir si dans nos cœurs, nous sommes sûrs et nous sommes déterminés à ce que Jésus vienne intervenir dans notre vie pour ce qui est mort. Si chacun d'entre nous, nous examinons, nous allons trouver qu'il y a des choses spirituellement qui sont mortes dans nos vies. Pour cette femme, c'était son avenir. C'était son amour, son espérance qui venait de mourir. Il n'y avait plus d'espoir, il n'y avait plus, c'était pire que quand elle n'avait pas d'enfant. Parce que quand elle n'avait pas d'enfant, elle n'avait même pas l'occasion d'espérer. Mais ici, elle avait tout placé, elle avait placé tout son espoir dans cet enfant. Et il était mort. Et Élisée a fait quelque chose d'étrange lorsqu'il est allé sur place. Il s'est allongé sur l'enfant, il a mis ses mains sous ses mains. Il a mis ses lèvres sous les lèvres de l'enfant. Il a mis ses yeux sous les yeux de l'enfant. Et j'aimerais dire que c'est ça que Jésus veut faire ce matin avec chacun d'entre nous. Il ne veut pas appliquer une méthode. Et si les enseignements, si la doctrine qui a été placée sur votre visage ne vous a pas donné la vie et ne peut pas vous donner la vie, l'enseignement, on peut le répéter dimanche après dimanche, on peut lire la Bible chez soi, n'est-ce pas, et lire le texte et l'apprendre par cœur, ça ne donne pas la vie. À moins que Dieu décide que ça donnera la vie. Mais ce n'est pas systématique. Combien de gens ont entendu l'Évangile, la puissance de l'Évangile, mais ils ont plutôt accepté ou répété à eux-mêmes qu'ils étaient chrétiens. Et dans l'Église, on les a considérés comme chrétiens par respect pour leur identité. Mais au fond, ils étaient morts. Et on le sait, n'est-ce pas, qu'il y a quelque chose de mort en nous, spirituellement. Et Élisée est allé, il s'est allongé sur cet enfant. Mais ça, vous ne le voulez pas, peut-être. Peut-être vous ne voulez pas que Jésus fasse souffle, le souffle de sa vie, de son esprit. Combien de chrétiens n'osent même pas prier chez eux, « Seigneur, donne-moi le Saint-Esprit. » Je me rappelle que des fois où j'ai prié ça quand j'étais jeune, converti, mais j'avais peur. J'avais peur de ce qui allait arriver. Et on a peur quelquefois de demander, Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit, déverse sur moi le Saint-Esprit, remplis-moi. On a peur parce qu'on a peur qu'on va perdre le contrôle. Mais l'avantage avec cet enfant, c'est qu'il ne pouvait pas avoir peur. Les enfants ont vite peur, n'est-ce pas? Mais là, il ne pouvait pas avoir peur parce qu'il était mort. Et le problème chez nous, c'est que nous ne sommes pas morts. C'est que c'est notre vie spirituelle qui est morte, mais nous ne sommes pas morts. Nous ne voulons pas perdre le contrôle des situations. Mais voilà trois domaines de notre vie, trois domaines de la vie de l'enfant qui était morte, qui ont été touchés par Élisée. C'est ses mains, ses yeux et sa bouche. Et voilà trois domaines que Dieu veut toucher ce matin dans nos vies. Et je vais commencer par les yeux parce que ce que Daniel a dit, c'était quasiment exactement ce que je voulais dire sur le domaine des yeux. Je voulais prendre le passage dans Jean chapitre 9 sur l'aveugle, vraisemblablement le même récit qu'on a lu dans Marc, où Jésus a touché les yeux de l'aveugle avec sa salive, avec de la boue. Il a fait quelque chose qu'on n'aurait pas voulu faire, mais il était aveugle, il ne pouvait pas voir ce que Jésus était en train de préparer. S'il avait vu un peu, il aurait dit à Jésus, non, tu ne mets pas ça sur mes yeux. Et bien sûr, s'il avait vécu au XXe siècle, au XXIe siècle, il aurait dit, oh là 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 là, il y a des bactéries, il y a des microbes, il y a de... voilà. Mais Jésus voulait faire une œuvre que vous ne voulez peut-être pas. Parce que on n'est pas complètement aveugle. On ne peut pas se laisser faire par Jésus. Mais ce matin, il veut toucher nos yeux. Il veut toucher ce qu'on regarde. Il veut toucher nos pensées. Parce que les yeux, c'est aussi le symbole de nos pensées, n'est-ce pas? Il veut toucher le contenu de nos pensées ce matin. Il veut que l'on reconnaisse que l'on est aveugle et qu'on a besoin de Dieu. Qu'on a besoin de voir les choses que Dieu veut nous faire voir. Notre vision est peut-être morte. Des choses que Dieu a en réserve pour nous. Élisée avait son serviteur Géasi dans une anecdote un peu plus loin avec le peuple ennemi qui venait attaquer, n'est-ce pas? Toute une armée qui descendait pour les attaquer. Et Élisée était décontracté. Il était en paix. Et certaines personnes, on peut dire c'est Élisée, mais certaines personnes connaissent ça, n'est-ce pas? Ils ont des troubles, ils ont des circonstances épouvantables et ils sont dans la paix. Et on connaît tellement de gens, probablement desquels on fait partie, qui ont des vies faciles, des vies confortables, avec des tout petits soucis. Mais on vit dans la tourmente, on vit troublé, on vit dans la crainte de ce qui pourrait arriver. Et Géasi avait peur, mais là je dirais qu'il y avait de quoi avoir peur, à cause de la vision qu'il avait. Il avait très peur de cette armée qui descendait, il a dit à son maître Élisée, que ferons-nous? Élisée a prié, Seigneur, ouvre-lui les yeux. Ouvre-lui les yeux, afin qu'il voie que ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Et si vous avez Dieu avec vous, si notre vision de Dieu, si notre vision de la personne de Dieu était si réelle, si Jésus a touché nos yeux, eh bien on voit Jésus, on voit le Seigneur, on voit sa puissance. Et il y a quelque chose qui nous transforme dans notre vie. Ce n'est pas le bâton de l'enseignement, ce n'est pas le bâton de la doctrine, ce n'est pas le bâton de la connaissance, ce n'est pas le bâton des méthodes, ce n'est pas le bâton des églises évangéliques. C'est la puissance de Dieu, le souffle de Dieu qui touche nos yeux, qui touche nos cœurs et qui nous ouvre les yeux afin qu'on voit ce qu'on voit, ce qu'on ne voyait pas. Est-ce que ce matin on peut dire, Seigneur, tu m'as ouvert les yeux, tu m'as fait voir la réalité de mon état, la réalité de mon péché, mais tu m'as fait voir aussi la gloire et le pardon et la grâce de Dieu. Le deuxième domaine que Élisée a touché quand il était assez allongé sur l'enfant, c'était les lèvres. Et combien Nous avons besoin que nos lèvres soient touchées. Si nos yeux sont touchés, Dieu veut toucher aussi nos lèvres. Oh, les lèvres, le dimanche matin, sont quasiment exemplaires. Parce que vous savez que si elles ne sont pas exemplaires, il y aura quelqu'un qui va contrôler, qui va vous dire, il y aura la loi. Mais nous ne sommes pas sous la loi. Et qu'est-ce que ça veut dire que nous ne sommes pas sous la loi? Ça veut dire que nous ne devons pas être gérés par la loi. Nous devons être gérés par l'Esprit de Dieu. Et ce que vos lèvres prononcent chez vous, ce que vos lèvres prononcent à votre travail, dans les circonstances de votre vie, circonstances quotidiennes, c'est là ce qui témoigne de l'Esprit qui vous anime. Ses lèvres ont besoin d'être touchées. Élisée a mis ses lèvres, il a mis sa bouche sur la bouche de l'enfant. Il ne savait probablement pas pourquoi il a fait ça. C'était conduit par l'Esprit de Dieu. Et c'est ça qui a donné la vie à cet enfant. Mais c'est ça qui donne la vie aussi, spirituellement, lorsque Dieu, lorsque Jésus-Christ lui-même peut mettre ses lèvres sur nos lèvres, peut toucher nos lèvres. Il a dit, Dieu a dit à Jérémie, ou Jérémie a dit de Dieu, il a touché mes lèvres. Et Dieu a dit, je mets mes paroles dans ta bouche. Ésaïe, le prophète, n'est-ce pas, a dit, je vis au milieu, lorsqu'il a vu la présence de Dieu, il a dit, je vis au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures et mes lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi. Mais l'un des séraphins vola vers lui, il a pris donc sur l'autel un charbon ardent, il l'a placé sous ses lèvres. On a besoin que nos lèvres soient purifiées. Combien les lèvres sont souillées. Et ce n'est pas les lèvres seulement qui sont souillées, parce qu'on pourrait remédier ça. C'est le cœur qui est profondément souillé par des déclarations. Par des déclarations qui sont dites, par des paroles qui sont dites, par des injures, par des déclarations, des proclamations qui sont contraires à la parole de Dieu. Des choses qui sont dites, déclarées comme des actes de foi et qui sont des actes de foi que Dieu est impuissant. On l'entend dans les familles, on l'entend quelquefois chez les gens qui parlent entre eux, des choses qui sont contraires à ce que dit la Bible. Et l'Esprit de Dieu veut toucher ses lèvres, il veut toucher nos lèvres ce matin. Il veut donner la vie à ce qui n'a pas de vie. Il veut donner la résurrection. Il veut utiliser nos lèvres pour la gloire de son nom. Le dernier domaine que Élisée a touché, sur lequel il a mis ses mains sur les mains de l'enfant. Et Jésus veut faire la même chose ce matin. Il veut mettre ses mains sur nos mains. Parce que les mains représentent ce que l'on fait, ce que l'on agit, nos actions. Peut-être nos lèvres sont exemplaires. Je pense à des gens qui vivent seuls, qui n'ont pas grand monde avec qui parler. Mais les mains, ce que nous faisons de nos mains. Eh bien, il faut que ce soit touché par la grâce de Dieu. Le psaume 24 et le psaume 15 dit quasiment la même chose. Vous verrez dans le psaume 15 que la question est qui montera la montagne de l'Éternel. Et là, il s'agit essentiellement de ceux qui ont une langue purifiée, des lèvres purifiées, n'est-ce pas? Mais dans le psaume 24, il est dit qui montera à la montagne de l'Éternel, celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Les actes, les choses que nous faisons, est-ce que c'est pur devant Dieu? Est-ce que nous avons pu avoir la vie de l'Esprit de Dieu qui nous a ressuscités, comme pour cet enfant, et qui a fait que nos mains peuvent être conduites par l'Esprit de Dieu? Les actions que nous faisons ne sont pas motivées par nos propres désirs, mais par les désirs de Dieu, par le souffle de l'Esprit de Dieu. Alors que Dieu fasse cette œuvre. Et si ce matin vous êtes conscient de la mort qui est en vous, si vous êtes conscient de cette impuissance, faites comme la femme de Sunem qui s'est levée, qui ne voulait rien entendre d'autre que les paroles d'Élisée. Et elle ne voulait rien voir d'autre que l'action d'Élisée sur ce qui était mort dans sa vie. Et Dieu est intervenu et Dieu l'a fait, et Dieu le fera. Dieu fera cette œuvre si nous demandons le Saint-Esprit, si nous désirons pour nos vies personnelles et pour l'Église l'œuvre du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit. Amen.